Bon, transition impossible entre processus viral et on va se diriger vers la Russie un peu plus, je crois, si j'ai bien compris. Donc, j'ai l'honneur de présenter maintenant Annie Eppelboin, donc pour une communication donc intitulée « L'utopie de la fin et la fin de l'utopie », c'est ça ? Oui. Et donc, Annie Eppelboin enseigne la littérature étrangère en langue française à l'Université Paris 8. Elle est traductrice, spécialiste de la littérature des années 20 et 30 du XXe siècle, et de Platonov en particulier, donc qui va être un des éléments de la communication. Voilà.
Par contre, moi, j'enchaîne sur hier, comme nous tous, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que ça m'a obligé à reprendre les choses qui, à la mesure où il y avait vraiment beaucoup de choses qui ont été soufflées hier. Mais bon, donc je reprends la question de la fin. Mais donc, après avoir écouté ce qui a été dit ici définitivement hier, sur la fin, il me semble que la fin est finie. Il ne me reste plus que le reste de la fin. Il me reste peut-être à parler du commencement, de la fin, d'un ailleurs, de la fin, qui n'est pas étranger au post-exotisme. D'ailleurs, je disais, quand je dis que j'enseigne la littérature... qu'est-ce que j'ai mis ?
Étrangère.
Étrangère en langue française, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux dans les dénominations des langues... ou des non-langues, ou de l'étranger, du français, etc. Enfin, à dessein. Alors, de quel livre on parle ici ? De livres, je cite, construits sur ce qui reste quand il ne reste rien. De livres qui, je cite, reprennent la rumination sur l'extinction de tout et de tous. Qui disent, je cite, dans d'ultimes roqueries, je cite, des borborygmes terminaux, je cite, l'extinction de l'espèce. Évoquant des compagnons de désastre qui sont parvenus au dernier stade de la dispersion et de l'inexistence, j'arrête ici l'énumération, de l'ultime, de l'extinction. Le monde post-exotique est une entreprise eschatologique, mais qui a perdu, on l'a vu, le sens de l'orientation, qui a perdu la route pour errer dans l'impasse. L'impasse est totale, définitive, circulaire, sérielle, si l'on veut, et la route initiale n'est plus qu'un vague souvenir. Je cite encore le livre... un souvenir ou une impasse, mais une impasse, c'est une nasse. Le livre tisse une nasse narrative. D'où la question. De quelle fin, de quelle mort s'agit-il ? L'événement référentiel, où pourrait être ancrée cette fin, est multiple et protéiforme. Hiroshima, on l'a vu aussi. Auschwitz, les purges staliniennes, les camps d'extermination divers. La multiplicité du matériau factuel permet l'imprécision, le flou parfois, mais pas toujours. Une fin peut en cacher une autre, mort d'un monde, mort des hommes, mort d'une fratrie, les morts symboliques s'enchassent. Le problème tient à ce que la mort, celle des narrateurs et leurs semblables, n'en finit pas de durer. Elle est une obstination, non à vivre, mais à dire et redire et exprimer de mille manières la fin. Les mourants, éloquents, bavards, quasi silencieux, chuchoteurs et répteurs, meurent infiniment comme pour pouvoir dire cette fin qui n'est donc pas la leur, ou pas seulement. Leur propre mort est imperfective. Elle apparaît bien plutôt comme le moyen métaphorique d'énoncer une autre mort, plus profonde, dévastatrice et perfective celle-là. Il s'agit d'une mort irrémédiable et néantisante dont les mourants sont les instances d'énonciation. Une mort totalisante, plus que celle d'un individu, d'un groupe, une mort innommable, et Beckett, on l'a vu hier, donc je passe, a ouvert l'ère de la fin sans fin, de la perte du temps, l'ère de l'épuisement narratif. Mais il a été montré, et oui, hier, que Volodine nous fait accéder à une autre inflexion de la temporalité. Le ressassement n'y est pas aussi vain. La stagnation y est encore féconde, et l'épuisement narratif n'éreinte pas le lecteur, lui offre au contraire des flambées imaginatives. La Renaissance y est à l'œuvre, même sous forme larvée résiduelle. C'est là le paradoxe, la réitération, la réaffirmation conjointe de l'avenir révolutionnaire autant que de ce qui n'est plus, émaille l'énoncé du non-avenir. Cette position d'oxymore, cette juxtaposition des contraires, si elle abolit tout recours au rationnel, est ce qui fonde l'originalité, la force narrative des textes post-exotiques. Donc, pour ne pas reprendre ce propos, je me reste à tenter quelques approches obliques visant le décentrement ou l'amont du fleuve. Grand-mère est morte, c'est une des exclamations assertives sur le thème de « La révolution est morte », on sait dans Bardot. Grand-mère est morte, hurle le commandant à commune forme agonisant. La révolution mondiale a été remise à plus tard, à 2 ou 3 siècles, ou même 4. On a laissé tomber l'avenir radieux comme une vieille chaussette. Le début le début du nom des singes nous dit bien qu'elle est morte, bien morte, hein, cette révolution. Je cite. Et sur le mode aussi bien ironique que lyrique. Je cite donc. La révolution était morte, une fois de plus, et même très morte. J'avais honte d'avoir participé à ce ratage. Tel est l'événement fondateur de l'annihilation. Tel est le nom de l'innommable Volodinien, cette fois. Je cite, l'obscène catastrophe que représente l'échec du projet révolutionnaire au XXe siècle. Citation connue d'un entretien. Et personne ne croit à la résurrection, un instant fantasmé de la grand-mère ou de son substitut. Va te faire foutre, dit comme une forme. Grand-mère n'est pas morte. Elle traverse le Bardot en ce moment. Elle va revivre. Les déguenillés vont se lever derrière elle. Ils seront invincibles. Ils vont construire le royaume des pauvres. Royaume des pauvres, oui. Ce discours est éructé dans le vide. L'avenir n'est plus. Une telle évocation messianique n'est que le sous-produit du délire nostalgique d'un agonisant. Nul n'est dupe. Quoique. Enfin, on n'est donc pas dans une fin de partie, mais dans la fin de l'ère des révolutions. Je crois, en effet, à la valeur du référent historique concret, explicite, même dans son imprécision, qui marque, avec un auteur comme Volodine, la sortie du post-becquettisme. La mort de la Révolution est le seul référent à ne pas fluctuer temporellement, enfin, contrairement à la naissance ou la mort, qui sont toujours dans l'avant, dans l'après, confondus. La Révolution, elle n'est pas à l'agonie, elle est au passé. Mais le deuil en est incessant et interminable, car c'est plutôt un anti-deuil. Il ne vise pas à l'apaisement, encore moins à l'acceptation. Au lieu d'instaurer, comme il se doit, la séparation des vivants et des morts pour recréer la vie, il lève la séparation. Il est proféré par des agonisants obstinés dont la vie ne finit pas pour mieux leur permettre. Dénoncer la prolongation infinie du deuil, deuil qui est censé, en principe, tisser une étoffe où s'entremêlent le souvenir et l'oubli. D'un narrateur à l'autre, d'un livre à l'autre, passant du pathétique à l'autodérision, le deuil du deuil n'aura pas lieu. L'ordre anthropologique est perturbé par ce refus de la fonction ordonnatrice du deuil. Cette fin est donc une utopie. Elle est le non-lieu d'une non-fin, d'une prolongation de la fin, d'une autre fin. Elle permet, justement, le déni de la mort, énoncé par certains narrateurs. Une utopie de la fin qui n'en est pas une, mais qui est le lieu de rencontre virtuelle de tous les agonisants narrateurs du post-exotisme. Bardot, camp, cellule, cave, le lieu de la fin est le dernier utopos qui survit à la mort de la Révolution. Il permet de faire coïncider l'espoir et le désespoir, à la fois l'idée épouvantable qu'il n'y avait pas de matrice au fond de la cave, Bardot, et donc nul espoir d'en sortir, fin de citation, et les dites phrases prophétiques. Nous serons des milliers à rétablir les passions rouges évidemment, on y reviendra. Même s'il ne reste qu'un, le communiste va agir pour réveiller les foules, toujours Bardot. L'utopie de la fin est donc le lieu de l'ambivalence où la mort de la Révolution, si elle est affirmée, n'empêche pas d'imaginer le rétablissement des passions rouges. Je fais 2 apartés. Premier, d'ordre anthropologico-culturel et un peu comme ça. Les Russes, il y en a un, ont coutume de ruser avec la mort, me semble-t-il. Les rites funéraires, ils sont certes très inscrits, très respectés, tenaces, mais ils aboutissent à une forme de coexistence entre les vivants et les morts qu'on observe dans les cimetières de campagne. Il y a des petits bancs un peu rudimentaires, près des tombes, peints en bleu, sur lesquelles on vient s'asseoir, avec un petit sac, on en tire la bouteille, le saucisson, et puis on bavarde. On restaure le lien, on continue. Deuxième aparté, plus sérieux. Enfin, la tradition utopique est vieille, très ancienne en Russie, très ancrée. Face à un réel résolument inacceptable, le peuple a toujours puisé dans les ressources de l'imaginaire, et l'imaginaire social. L'optimisme messianique qui fonde les valeurs du christianisme y est amplifié et refondé de mille manières. S'y inscrivent à la fois les légendes messianiques, post-chrétiennes, enfin, et la mémoire des révoltes que le folklore fait vivre. L'idée, la représentation des sectes fondatrices de communes au cours des trois, disons, à partir du XVIe siècle, des communes qui se forment pour s'adonner tantôt au renoncement ensemble, tantôt à la quête collective, d'où des flux migratoires d'errants qui partent à la recherche d'une cité de Dieu sur la terre, cité engloutie comme celle de Kitej, ou cité à bâtir, qu'on va bâtir aux confins de l'espace. L'utopos en Russie est au bout de la steppe. L'île y est ancrée dans la terre, dans son immensité. L'anarchisme utopique s'y décline de multiples façons dans l'histoire, dans le peuple comme chez les écrivains que je vais évoquer. L'utopie volédidienne, pour y revenir, est donc le lieu où se conjugue une fin infinie, mais aussi de façon sous-jacente une renaissance irrépressible, même si elle est souvent infinitésimale. Elle rend possible l'inacceptation de la perte. Perte immense, car pire que la perte humaine est la perte du rêve. Le monde défunt n'est effectivement pas le monde réel, mais un monde fantasmé, condensant des situations référentielles diverses sur le plan de l'histoire et de la géographie. Mais que la narration nous tourne vers l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine, le dénominateur commun des lieux de l'espoir et du désastre est indiqué précisément par un espace-temps. Je cite « C'était au temps de l'Union soviétique ». Cette formule est insatisfaisante au plan référentiel. Le réel énoncé de façon un peu floue masque une vérité cachée. Et c'est en cela, précisément, que l'œuvre volodinienne est éminemment politique. Parce qu'elle dit sur l'histoire, non pas ce que les événements nous font voir, mais ce serait alors un roman historique, documentaire, etc. Mais ce que ces événements cachent, ce qu'ils suscitent et inscrivent en nous, qui est le vécu profond de l'histoire. Et appelons ce référent second, ou, à défaut de mieux, et par convention provisoire, rapportons-le à l'inconscient collectif, ou comme disait Valérie hier, la psyché sociale. Volédine dit, en effet, entretien avec Lionel, qu'il écrit à partir de la matière historique et des fantasmes nés de cette matière historique. La littérature, on constate, exprime parfois en images très denses ce que les historiens peinent à formuler ou ce qu'on comprend nous-mêmes seulement après. Précisément parce que le fantasme engendré par l'événement et transposé en œuvre dit parfois plus et plus vite que la conscience qu'on en a, conscience claire. Je pense à Kafka, Platonov, série. L'œuvre littéraire perçoit et donne forme à l'image sous-jacente, enfouie, en zone profonde, et elle est comme l'épicentre. La matière historique qui échappe au regard peut être saisie et brassée par l'énergie fictionnelle de la création littéraire seule. Nous avons ainsi une œuvre qui propose la lecture de la fin inacceptée d'un rêve, du refoulement, de l'échec, ce que Lionel Refel appelle, à juste titre, un impensé, lorsqu'il dit « L'échec des entreprises révolutionnaires reste un impensé dans le post-exotisme, dont le post-exotisme serait l'expression fantasmée. » Mais cet impensé, en amont du post-exotisme, n'est pas si impensé que ça, si on se tourne justement vers la littérature étrangère, non étrangère, enfin bref, vers la littérature russe. Le deuil collectif, dont parle le post-exotisme, fait suite à un trauma, une déchirure, dans la représentation du social, en ce qui nous concerne, et dans la mesure où il est lié à l'échec en question. Où situer ce moment traumatique qui marque l'avènement de la fin? La question renvoie, bien évidemment, on l'a vu, il faut à mon avis continuer à y réfléchir, au point de vue, au lieu et au milieu de la réception de l'événement. Parce qu'un trauma est de l'ordre de l'affect. Hein, le lieu de rencontre de l'affect et de l'expression. Lionel Ruffel évoque la rupture historique, comme il dit, en la situant en 90-91, au moment, dit-il, de la chute du mur et des statues. Focalisation courte, en tout cas, qui ne vaut pas pour la littérature et qu'il faut recentrer dans un avant et un ailleurs. Hein, la chute des idoles est advenue bien plus tôt. Le traumatisme n'est donc pas réductible à la révélation de l'existence des camps staliniens, à ce redoublement de l'horreur vécu pour les esprits occidentaux lors de la découverte du phénomène concentrationnaire et de la violence de masse dans les années, je dirais, fin 60 et 70. Ou alors, il faut admettre qu'il soit lié, pour d'autres, ailleurs, à des catastrophes antérieures à l'existence, longtemps méconnue en France, d'autres expériences traumatisantes. La guerre civile, la collectivisation forcée des campagnes, 29-32, les purges et exécutions massives, dès le début, les famines naturelles et non naturelles, celle qui a été quasiment organisée à la suite de la collectivisation dans les régions du sud et d'Ukraine. Le XXe siècle est décidément le siècle des catastrophes, des souffrances collectives, dont il faut bien admettre qu'elles sont démultipliées en Russie, et donc vécues avec une amplitude diverse, variable, selon le lieu, le milieu de réception. Aussi, la fin sous-jacente à l'échec de la Révolution est une fin plus discrète, soit, mais plus insidieuse, souvent omise ou occultée, car elle renvoie à la mort inadmissible, de l'idée constitutive de notre être au monde collectif. La mort du très ancien postulat optimiste, fondateur d'éthique, qui est l'idée de progrès. Les Lumières ont élaboré la vision d'une avancée du plus grand nombre vers plus d'humanité, plus de liens, plus de responsabilités. Le XIXe siècle en a donné les clés de réalisation scientifique, politique. Les bolcheviques, au XXe, l'ont mise en pratique, mais sur un mode accéléré. Ainsi, les voies des faits qui se sont penchées sur le berceau du post-exotisme sont des voies bolcheviques. Leur force d'entraînement et d'enchantement, de mobilisation, ressortit à tout autre chose que la théorie de la nécessité historique énoncée par Marx. Elle tient à la rencontre exceptionnelle, justement, dans ce lieu, de la théorie et du rêve. On y revient. À la force du désir qui fonde le politique. À, précisément, ce qui est appelé passion rouge. La moitié du monde en aperçut l'attrait, la Russie tout d'abord. Et c'est bien autant d'eux, sinon à partir d'eux, l'Union soviétique, qu'a irradié l'enthousiasme, l'énergie démiurgique d'une idée qui, de fait, se donnait pour tâche de créer un monde autre, encore inaperçu, qui avait évidemment à voir avec le rêve, un monde exotique. J'évoquerai donc trois voies qui, chacune à leur manière, infiltrent le post-exotisme. Elles renvoient à la période post-révolutionnaire des années 20 en Russie, à l'explosion de créativité dans la littérature qui, il est vrai, avait déjà été amorcée au début du siècle, mais que la révolution bolchevique a malgré tout exaltée. Malgré tout, car il faut aussi bien se représenter la répression qui touche de très près les écrivains. Certains tout de suite, d'autres presque tous, à partir de 29. Le roman est immédiatement, comme l'énonce Mandelstam, le héros, le roman est immédiatement aboli. Mandelstam, je crois que c'est dans son article de la littérature. Le héros n'existe plus, l'individu se dissout dans le héros collectif, l'auteur se dissout dans l'écriture collective, le collage, le montage sont à l'honneur. Et c'est bien là le creuset de l'écriture volodinienne. La première voie, donc, non traduite en français, est celle d'un des patronymes référentiels du post-exotisme, Artyom Vissiol. Le voilà. Oui, les feuillettes. Je regarde. 1970. Ce n'est pas un écrivain connu du tout. Il n'est pas traduit en français. Mais voilà, je réponds donc à la question que tu m'avais posée, jadis, hein, et à celle qu'on se pose lorsque on lit le Naradis des anges mineurs. Merci. Hein, bon, je ne vais peut-être pas le lire en entier, mais c'est tout de même effectivement une bonne page et demie. Ici repose Nicolas Kotchkourov, alias Artyom Vissiolé. Ici reposent les brutes qui l'ont abattu et les brutes qui l'ont assommé. Ici repose l'accordéon qui jouait la marche des Komsomol quand les sbires ont interrompu la fête. Ici repose une flaque de sang. Ici repose le verre de thé que nul n'a terminé ni ramassé et qui est longtemps resté au bas du mur. Semaine après semaine et mois après mois, se remplissant d'une eau de pluie qui paraissait trouble et où deux guêpes vinrent se noyer le 6 mai 38, près d'un an plus tard. Ici repose le roman de Vissiolé où le narrateur exprime le souhait, à l'heure de l'agonie, d'être assis près d'un feu de camp et près des arbres, au bord d'une route, avec des soldats qui chantent une chanson russe, une mélodie à la beauté envoûtante, au lyrisme simple et sans égal. Ici repose l'image du ciel au jour de l'arrestation, un ciel que presque rien n'embrumait. Ici repose l'inoubliable roman de Vissiolé, la Russie lavée par le sang, etc., etc. Encore une page. Donc, ce Vissiolé représente le type assez prolifique d'écrivains qui ont voulu et ont incarné l'élan, ce qu'on a appelé le romantisme révolutionnaire. Moins original que Babel, Pignac ou même Sévolod Ivanov, que certains connaissent peut-être, et qui était très connu dans les années 30 en France, parce que très traduit, il véhicule, comme eux, l'attrait de la Révolution, vu comme une force exotique, sauvage et comme cataclysme. La Première Guerre mondiale, en effet, a déchaîné la violence, ça, on le connaît, qui s'est ensuite déversée dans la Révolution, immédiatement suivie de la guerre civile, de 18 à 21, je rappelle. Artyom Vissiolé y a participé, comme beaucoup. Puis, il se rallie comme écrivain à la littérature prolétarienne. Le groupe est fondé sur l'idée de collectif, dès avant la Révolution, l'idée de fratrie d'ouvriers de l'usine, comme l'avait voulu Bogdanov, son créateur, son grand animateur, hein, qui a écrit la Technologie. Mais le collectif devient, après la Révolution, celui, évidemment, par excellence, de l'armée rouge, quand elle se rue vers le sud de la Russie et l'Europe, au nom, bien sûr, de l'internationalisme révolutionnaire. Le pseudonyme, donc, de Volodine, on a vu, qui n'est pas né, c'était une mode à l'époque, il n'est pas né, Vassiolé, oui. Et choisi certainement pour imiter Gorki, dont on sait que c'était un surnom signifiant en russe « amer », comme le destin du peuple. Et donc, Artyom prend comme pseudo d'abord « ni Vissiolé », puis ensuite « Vissiolé », ce qui veut dire « pas joyeux », puis au bout de quelques années, ben « joyeux ». Donc, on voit qu'on est dans la phase ascendante, là, pour le coup, de la Révolution. Il n'a pas eu le temps d'en changer. Artyom Vissiolé est fasciné par la violence, par les mœurs anarchistes des communautés cosaques qu'il a connues bien et côtoyées durant la guerre civile. Puis, à la fin de la guerre, il se range à l'ordre bolchevique, il participe au train d'agitprop, d'agitation politique, comme par exemple celui qui s'appelle le Cosaque Rouge. Il participe au service de propagande d'État, les fenêtres Rosta, comme d'ailleurs Mayakovsky, et d'autres. Il publie en 1928 un roman au titre effectivement emblématique, « La Russie baignée de sang ». Il dit que l'idée lui en est venue dans un train, un moment où il rentrait sur Moscou, et à l'aube, il s'est réveillé, il a regardé par la fenêtre, et a vu un détachement de Cosaques immense qui remplissait la steppe. Et là, il a voulu écrire ce roman qu'il a édité par épisodes successifs au cours des années 20. Deux mots sur le roman. C'est une évocation très haute en couleurs des Cosaques, de la guerre, de la violence révolutionnaire, de l'ivresse, de la tombée de tous les tabous. Le style est repris d'une tradition russe qu'on appelle le skaz, c'est-à-dire le rendu du parler oral, dialectal parfois, des personnages. En fait, il est un des nombreux écrivains fondateurs du genre qu'on a nommé roman-épopée, genre très apprécié par la critique officielle comme étant la seule forme capable de rendre le caractère grandiose, unificateur, fondateur de l'événement révolutionnaire. Là s'orchestre déjà la première phase d'un mythe qui n'ira pas plus loin pour ce qui concerne Vissoli, car son destin en fait, si j'ose dire, le prototype des narrateurs de Volodine, qui sont, comme lui, des révolutionnaires écrivains, héros sans exploit et martyrs sans postérité. Communiste irréductible, Vissoli est arrêté en 1937, comme beaucoup d'autres. Mais, à la différence de certains, et d'après le récit d'un autre écrivain, on raconte que, pendant son interrogatoire, il refusait obstinément de croire aux accusations de l'instructeur. Et il a fini par se précipiter sur lui, de l'assommer à coups de poing, ce qui lui a valu d'être fouetté à mort, semble-t-il, en réponse à cette irréductibilité. La date de sa mort et de son exécution présumée n'est pas une connaissance déterminée, entre 37 et 39, il y a des variantes. Il a été réhabilité après le 20e congrès, réédité à ce moment-là, dans les années 70, celle de la formation de Volodine. La sous-voie qu'il faut évoquer, en annexe, est celle évidemment de l'international. Évidemment, mieux connue de vous autres, de nous autres, de beaucoup de gens. Dont les paroles, je rappelle, ont tenu lieu de doxa, enfin, d'endoctrinement pour les soldats de la guerre civile, et d'hymne national à l'URSS jusqu'au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Les paroles optimistes, s'il en est, sont celles d'un rêve totalisant, chanté par un peuple qui a effectivement cru, hein, on l'oublie parfois, à la dimension planétaire, universelle de la Révolution, au moins dans l'impulsion des débuts. Qui a cru que l'appartenance nationale avait cessé de faire sens et que le bain de sang préluderait à une entente fraternelle de tous les combattants partant de tous les occupants. L'espéranto, on le sait moins, est la langue de cet espoir qui a été pratiquée durant les années 20, beaucoup, dans des multiples cercles, avant d'être interdite. C'était la langue d'accueil et de fusion de tous les étrangers, devenus frères hybrides, à distinguer d'une quelconque Ursprache ou d'une langue de nation dominante, comme ce sera le cas par la suite. Mais j'anticipe sur Platonov, alors que je voudrais évoquer une deuxième voie, celle de Zamiatine. Alors, Zamiatine en France est plus connue, mais que je sache, il ne l'est pas tellement en Russie. Disons qu'on connaît Nous autres, écrit en 1920, très tôt traduit en France, mal traduit le titre, parce que c'est tout simplement « nous ». Et c'est beaucoup plus fort comme ça. Si je pense devoir m'arrêter sur Zamiatine, c'est parce que, à la différence du précédent et de ceux multiples des écrivains qui ont été portés de façon univoque par l'élan révolutionnaire, il est, avec Platonov, je n'en connais pas vraiment d'autres de cette taille, hanté par le pressentiment, ou plutôt le sentiment de la fin de la Révolution. On revient donc avec lui à la tragédie de l'échec dont on était parti, et à l'idée d'un début de la fin. Enfin, pour cela, je ne m'attarderai pas sur Nous autres, qu'on met d'ailleurs trop aisément et faussement dans la catégorie des contre-utopies, mais sur un récit moins connu, plus court, une beauté fulgurante, le récit du plus important, et il existe, traduit. Et c'est le premier Volodine, n'est-ce pas ? Donc, je dirais quelques mots sur la biographie de Zamiatine, là encore, exemplaire. C'est un jeune russe. J'ai pensé tout à l'heure qu'il était né lui aussi vers les steppes, dans le sud-est de la Russie. Décidément, il y a là une matrice. comme Platonov, comme Bissolet. Il entre dans le mouvement bolchevique comme clandestin, il est mis en prison sous le régime tsariste, il en sort, il devient écrivain tout en étant ingénieur, ce qui lui fait connaître l'Angleterre où il surveille la construction d'un sous-marin. Pendant la Révolution, il se débrouille pour se rapatrier en Russie, participe à la Révolution, à l'instauration d'un régime dont, très vite, il devient dissident avant l'heure. Ce qui l'amène à nouveau en prison. Il n'a pas été fusillé, arrêté vraiment longuement, grâce à ses amitiés bolcheviques, évidemment. Mais il se révolte contre la censure qu'on lui impose et écrit finalement en 1929 une lettre remarquable à Staline qui lui fait obtenir le droit à l'exil. Il parle là de sa mort, il demande de sa mort littéraire et il demande que sa peine soit commuée en peine d'exil. Et une fois en France, il y finit sa vie dans une mort lente, rejeté à la fois par les intellectuels français progressistes qui ne comprennent pas qu'il ait pu émigrer du paradis, et par l'immigration russe qui ne comprennent pas qu'il puisse demeurer quelque chose comme bolchevique. Et il meurt en 1937. Il est enterré au cimetière de Thiers, hein, parmi les laissés pour compte. Le récit du plus important, donc, est écrit en 1923. Il a été mal accueilli en Russie. C'est un court texte, bon, traduit en français en 71 chez L'Âge d'Homme. Dans ce récit du plus important, la Révolution, ou plus exactement la guerre civile, c'est pareil, est un des trois plans narratifs qui s'entrechoquent et s'interpénètrent à la façon d'un tableau cubo-futuriste, je dirais. C'est un récit très complexe sur le plan formel, je trouve stupéfiant. Le déchaînement de la violence s'y inscrit donc, mais à trois échelles. Celle, presque microscopique, d'un gros plan éclaté, qui focalisait sur la naissance d'un papillon, ou plus exactement une chrysalide. C'est une chenille qui meurt dans des convulsions atroces pour donner naissance. Mais on ne verra pas le papillon. Donc, première image. Deuxième échelle, celle d'un coin de campagne, un village, une petite rivière, un pont, où a lieu une révolte paysanne qui refuse le diktat du centre et elle va être matée, cette révolte, par les bolcheviks qui ont envoyé l'armée. Mais deux anciens frères de combats révolutionnaires vont devoir s'affronter, celui qui a rejoint les paysans et celui qui commande le détachement militaire. Troisième échelle. L'échelle planétaire, celle du cosmos, puisque, dans le même moment, sur une autre planète, la vie est en train de s'épuiser par raréfaction de l'air, et les habitants en meurent, la planète décide de changer de ligne, et elle va devoir entrer en collision avec la Terre. Ces trois séries, donc, s'enchassent, et je vais essayer de vous en donner une idée en lisant trois extraits, si j'ai encore le temps. Alors, page 15, ça c'est vraiment le début, premier chapitre. Le monde, un buisson de lilas, éternel, énorme, incommensurable. Dans ce monde, moi, une chenille repalocère, d'un rose jaune avec une corne sur la queue. Aujourd'hui, il me faut mourir en chrysalide, corps déchiré de douleur, arche de pont tendue, frémissante. Si je pouvais crier, oh, si je pouvais, tout s'entendrait, mais je suis muette. On passe à l'autre plan. Le monde entier, le miroir de la rivière, le pont transparent de fer et d'azur, arquant son dos tendu, donc vous voyez avec report des formes, l'arc de la chenille, l'arc du pont, etc. Je passe au paragraphe suivant. Les mondes sont intersectés et la chenille europalocère est entrée dans le monde de Koukoverov, de Talia, dans le monde, dans le mien, dans le vôtre. Autrement dit, si je reprends également, voilà, Koukoverov, Talia sont les deux personnages principaux. Et le troisième, le chef du commandant. Dorda ne sait pas encore. Deux ou trois minutes, encore, il ne saura pas s'il va tomber ou non. Mais sur l'étoile obscure, on sait déjà, aujourd'hui est le dernier jour. Autrement dit, vous voyez, télescopage des temps, je ne dirais pas métalepse, anticipation, rétrogradation, et surtout, ce qui est frappant, c'est, enfin je dirais pas, sur un mode saccadé et haletant, puisque vous voyez que dans une même phrase on passe d'un plan à l'autre, c'est la chronique d'une mort annoncée. Annoncée par la Révolution et en même temps annonciatrice de révolutions à venir. Ce qui est frappant donc, c'est que ce jeu narratif se déplace d'un plan à l'autre, d'un personnage à l'autre, d'une temporalité à l'autre, parfois, souvent même dans une même page. Il est un jeu univers. Et le lecteur est pris dans une lecture kaléidoscopique d'un monde qui se prépare et s'adonne à la mort inéluctable. C'est une vision poignante, unanimiste, lyrique, infiniment dramatique de la révolution en tant que cataclysme. Elle est portée à la dimension d'apocalypse cosmique par une image saisissante de collision interplanétaire, rappelant évidemment la science-fiction, mais dans un lyrisme étrange. C'est la fin du récit. Tourbillante et frémissante, la Terre attend qu'on la transperce jusque dans ses entrailles obscures, que jaillisse, impatiente et bouillonnante, la lave pourpre afin de consumer, afin d'embraser. Frémissante, elle enveloppe sa nudité de lourdes nuées, pluie averse, brûlante comme des larmes qui disent que ce soit vite, que ce soit jamais, éblouissement, douleur. Et la toute fin... pierre, fracas, flamme, collision au milieu. Or, des isbas tout à coup cabrées, tournoyantes comme des ours, bondissent les paysans de Quelbouille, ceux d'Aurel, et tous fuient on ne sait où, et ils tombent dans les crevasses ardentes. La terre ouvre ses entrailles largement, plus encore, s'ouvre tout entière pour engendrer, dans une lumière pourpre, des créatures flamboyantes, neuves. Et puis après, dans un blanc brouillard, d'autres êtres neufs, efflorescents, rattachés à la nouvelle terre par une simple tige gracile, et lorsque s'épanouiront ces fleurs d'homme, point de suspension. Récit de 1923. Donc, dans cette closure, on voit apparaître la postule terminale initiale, qu'on avait déjà observée en début de récit, avec la chrysalide, métamorphose de chenille en papillon. Cette fois, l'anéantissement de la terre donne naissance à des créatures pourpres, puis à des êtres évanescents, et dont on nous dit qu'ils sont rattachés à Nouvelle Terre par une queue gracile. Le recours aux figures de la biologie des plantes a encore une fois été envisagé hier. Et on y voit donc un antécédent annonciateur du post-exotisme. Enfin, Zamyatin parle si... La Révolution, il en parle dans des termes si proches de ceux qu'on a évoqués hier que je me dois de citer aussi son article de 1923 au titre évocateur « Littérature, Révolution et Entropie ». Tout y est. La Révolution est partout, en tout. Elle est infinie. Il n'en est pas d'ultime, comme il n'est pas de nombre dernier. La Révolution sociale n'est qu'un des innombrables nombres. La loi de la révolution n'est pas sociale, elle est incommensurablement plus, elle est cosmique, universelle, telle la loi de la conservation de l'énergie, de la dégradation de l'énergie, l'entropie. Un jour, on établira la formule précise de la loi de la révolution, et dans cette formule entreront des grandeurs numériques, les nations, les classes, les étoiles et les livres. Pourpre, ardente, meurtrière est la loi de la révolution. Mort il y a, pour que naisse une vie nouvelle, une nouvelle étoile. Et froide, bleue comme la glace, comme deux infinis glacés interplanétaires, est la loi de l'entropie. Etc., etc., je passe. La flamme peut se refroidir demain, après-demain. Dans la Genèse, les jours équivalent aux années, aux siècles. Mais quelqu'un doit déjà la percevoir aujourd'hui, et déjà aujourd'hui parler en hérétique du lendemain. Les hérétiques sont le seul et amer remède contre l'entropie de la vie humaine. Donc, avec Zamyatine, la temporalité est infléchie, la linéarité du temps est abolie au profit de la succession des cycles. La mort de la révolution, si tragique soit-elle, n'instaure pas une fin, mais génère une suite de renaissances fragiles, incertaines. Elle laisse entrevoir la possibilité d'une pérennité de la vie, voire de la révolution même. Et dans nous autres, après l'échec sanglant de la révolution et la généralisation de la grande opération qui abolit l'imagination, à la fin du récit, tout espoir n'est pas anéanti. La compagne du narrateur est enceinte, elle a rejoint les rebelles au-delà du mur vert, on le sait, et donc la vie renaîtra. La vision tragique de la révolution et de son échec est donc ambivalente, ou du moins elle est équilibrée par la valorisation de l'imaginaire, de l'hérésie, qui sont des qualités post-exotiques, s'il en est. Elle prophétise dans un lyrisme flamboyant la mort et la renaissance éternelle de ses idées révolues. La troisième voie, s'il me reste du temps, c'est celle de Platonov. Là, je suis un peu gênée parce que j'en ai fait le sujet d'un article qui est paru dans le recueil qui a fait suite au colloque de Moscou. Et bon, j'ai pas envie de revenir sur ce qui constitue l'ensemble des filiations. C'est un point d'appui très fort et essentiel, n'est-ce pas, des voies post-exotiques. Platonov est un visionnaire, hanté par l'entreprise d'émancipation collective, l'espoir fou qu'elle a donné aux hommes. Il élabore par des successions d'images oniriques, burlesques, peu à peu tragiques, une problématique infiniment plus proche de ce qui nous préoccupe ici que tout autre auteur. Zamyatine, Platonov, c'est Platonov qui est le plus proche. Bon, je passe sur sa biographie, tant pis. On peut dire de lui qu'il est un grand précurseur, un prophète quelque peu échevelé du post-exotisme. Pourquoi est-il méconnu, ça ? Je n'arrive pas à l'expliquer. Il est l'auteur de deux textes magistraux. Tchevenbourg, qui est un étrange toponyme n'existant pas comme tel en russe, consonance vaguement turkmène, mais il y en a d'autres, des lieux, ça, dans le sud-est. Et l'autre récit, Kotlovan. Ça, ça se traduit, mais je ne peux pas m'y résoudre, on y perd. Le mot Kotlovan, ça désigne un endroit très banal. Un copain à Moscou m'avait dit, bah, écoute, quand tu sors du métro, tu passes à côté du Kotlovan, enfin en russe, et puis ensuite, c'est la première à gauche. Bon, oh, ça m'a fait un choc. Kotlovan, pour moi, c'était Platonov et rien d'autre. En fait, un Kotlovan, c'est un terrain vague, mais qui a été déjà creusé, parce qu'on y va, on va y construire une maison. Donc, on connaît tous ça, on a tous à côté de chez soi un endroit comme ça, qui fait beaucoup de bruit, dans un, mais qui commence par un trou ou une fosse. Et, bon, je ne suis pas architecte, mais enfin, je sais que cette fosse, elle est d'autant plus profonde que la maison va être grande. Donc, fosse. Et puis édifice. Et ce qu'on édifie, évidemment, c'est le socialisme, c'est le communisme. Là.
Est-ce que c'est celui qui a été traduit par le chantier ?
Voilà. Alors, je ne voulais pas le dire parce que c'est mal traduit. De toute façon, le récit est mal traduit par ton collègue, qui pourtant est un grand traducteur. Et le titre surtout. Mais, j'ai toujours pas trouvé depuis tant d'années la bonne solution. Il avait déjà été traduit précédemment, dans les années 70, sous le titre de « La fouille ». Et je me suis renseignée, c'est comme ça que les architectes désignent le trou en question. Seulement nous, modestes, la fouille, c'est tout à fait autre chose, avec des connotations qui partent complètement à côté. Donc c'est un toponyme usuel pour désigner précisément cette fosse. Alors il y a des langues, en allemand, ça ne pose pas de problème, il y a une traductrice là qui est en train de s'y mettre... je crois qu'on dit Baugrube, il y a des germanistes ici. C'est-à-dire que le mot composé contient les deux éléments. Or, les deux éléments, c'est précisément les contraires. C'est-à-dire édification vers le haut, creusement vers le bas. Et fosse. Donc, c'est tout. Ce nom contient tout. Et en plus, en russe, Kotlovan, ça c'est mon interprétation, ça renvoie à Katiol. Katiol, c'est vraiment fort chez Platonov. C'est une marmite, c'est-à-dire c'est un rond, c'est-à-dire c'est un creux, on va y revenir. Un endroit chaud où on peut se nourrir. Donc, tout un chemin de dérivation fantasmatique est possible. Dur, hein, pour les traducteurs. En tout cas, dans ce récit, écrit 29-30, alors que Tchevengour est 28, on est toujours dans ces années 20, et je dois dire que ces deux récits n'ont pas été publiés en Union soviétique avant la fin, c'est-à-dire 86-87, etc., qu'il est très difficile d'établir l'original, enfin la version définitive du texte, puisque précisément dans ce système, il n'y a pas de version définitive, étant donné que Platonov était quelqu'un qui ne voulait pas écrire pour le tiroir, qui cherchait à se faire éditer, qui envoyait ses manuscrits, on lui renvoyait, il les renvoyait, etc. Donc tout un travail qui, j'en ai parlé à Jacques Neff, met au défi la génétique des textes, parce que précisément la dernière version est toujours la moins bonne. Et qu'on ne sait pas où se situe la bonne. Impossible, parce qu'on n'a pas, on a brûlé, on a détruit les journaux, les lettres, tout ce qui pourrait établir. C'est un problème énorme. Donc Tchevengour, c'est le nom fantasmatique d'une ville encore plus fantasmatique, hein, qui est une communauté de gueux, de laissés pour compte, nommée comme telle, qui accepte même en son sein les plus gueux que les gueux, c'est-à-dire les autres, c'est-à-dire le reste, en russe c'est prochi, c'est-à-dire ce qui reste quand on a fini les comptes. Et ils s'y sont groupés, ils ont créé, ils disent, le communisme. Donc cette ville est située au milieu des steppes, très loin, autrement dit nulle part, et les deux personnages principaux, Vanov et Kopiolkin, sont partis comme ça, en errance, Don Quichotte évidemment, pour retrouver cette cité, puisqu'ils vont vers l'avenir, c'est-à-dire vers le communisme, c'est-à-dire vers Tchevengour. L'un d'eux, Kopiolkin, est juché sur un cheval, un bon laboureur, qui s'appelle Force Prolétarienne, et qui, comme il se doit, a l'instinct de classe, c'est-à-dire que, de temps en temps, eh bien, c'est lui qui part au galop quand son cavalier prend sa chapka et il regarde l'image de sa dulcinée qui est Rosa Luxembourg. Et donc, il dit « Rosa !» et le cheval part au galop. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à Tchevengour. Et ce qui s'y passe, c'est évidemment indescriptible, hein, je ne peux pas résumer. Ils finissent par s'entretuer, en fait, après avoir fait le communisme. Enfin, ce qu'ils peuvent imaginer être le communisme, c'est-à-dire avoir arrêté de travailler, avoir attendu que le soleil fasse tout à la place, etc. Et donc, je cite, « Dvanov avait tout de suite aimé ce mot de Tchevengour. Il ressemblait au grondement attirant d'un pays inconnu. » Donc, il y a vraiment cette idée comme ça, de rêve dans la figuration du communisme. À un moment, je vais faire ça, deux, trois citations. Il croise un personnage qui revient de Tchevengour, justement, vers laquelle il se dirige. « D'où viens-tu » demande-t-il. « Du communisme. Ah. »« Ben, c'est un village qu'on nomme comme ça, en mémoire de l'avenir. »« Tu parles d'un village. Chez nous, c'est la fin de tout. »« La fin de quoi ?» demanda-t-il avec méfiance. Eh bien, la fin de l'histoire universelle. Donc, on est vraiment dans la fin. La fin est énoncée partout. La fin de l'histoire consécutive à l'avènement du communisme. Autre citation. Dialogue toujours. De nos jours, mon petit vieux, il n'y a plus de route. Les gens sont arrivés à destination. Arrivés où ? Demande docilement Alexei, qui perdait dans son cœur tout espoir coopératif. Il cherchait... Comment ? Où ? Ben, dans le communisme de la vie. T'as lu Karl Marx ? Mais non, camarade Tipourny. Eh bien, il faut le lire, cher camarade. L'histoire s'est achevée et tu ne l'as même pas remarqué. Là, comment ?
C'est juste qu'on imagine d'arriver vers la fin pour garder un peu de temps pour la discussion.
Ouais. La fin tragique de Tchevengour est celle du fantasme, d'un fantasme hallucinatoire, de vie collective, qui a tourné au cauchemar. Final, venu de l'horizon, un escadron indéfinissable, mais un escadron d'armée constituée, vient les anéantir. Et c'est la destruction finale. Et à ce moment-là, Dvanov retrouve le cheval errant, Force Prolétarienne, qui le mène cette fois vers un lac, dans lequel il reconnaît le lac où, quand il était petit, son père s'était noyé, parce que son père avait l'obsession de trouver la vérité cachée. Il pensait que seuls les poissons la connaissent parce qu'ils gardent les yeux ouverts sous l'eau. Et Dvanov entre dans l'eau sur le cheval. je passe. Dans Kotlovan, le chantier, donc, se lit également le double élan, enfin, d'une façon encore plus condensée, construction et destruction de l'élan révolutionnaire. Donc, je vais parler, et on retrouve la posture terminale initiale et l'échec s'y lit dans la métaphore finale, celle de la mort de l'enfant. On va évidemment reprendre la construction de la maison finale après un désastre qu'on ne saisit pas dans sa force en France parce qu'on l'a longtemps ignoré, c'est celui de la collectivisation forcée, c'est-à-dire déportation des coulaques, massacre des paysans, et tout ça s'insère dans le récit d'une manière que je trouve rigoureusement stupéfiante. Mais ce qui est fort aussi, c'est que donc, si, pour raconter la trame, au début, un personnage errant qui cherche le sens de la vie au milieu de la steppe arrive à un endroit où, justement, on commence à creuser une fosse. Alors, il s'engage comme ouvrier terrassier pour participer à cette équipe. Et il creuse, et il creuse, et il se pose toutes sortes de questions sur ce qui va advenir de cette maison qui, d'abord, est une maison, puis la maison du prolétariat, puis la maison du prolétariat mondial, puisqu'on fantasme sur le communisme. Et donc, il faut creuser toujours plus profond et plus large, puisque la maison va être immense pour y loger tout ce monde. Et leur travail est interrompu par le fait qu'on réquisitionne des ouvriers pour aller aider à la collectivisation, c'est-à-dire massacrer. Et ils arrivent, et là, il faut désigner des coulaques. Et on ne sait pas qui sont les coulaques. Et c'est encore un animal qui sait, instinct de classe. Mais là, c'est un ours. Alors, l'ours, on le trouve quelque part, c'était un ours marteleur, c'est-à-dire qui était dans une forge chargée d'activer le soufflet. Et on se dit, celui-là, c'est le prolétaire opprimé, parce qu'il a vraiment été au service de tout le monde. Et on le balade dans le village, et c'est lui qui, avec son instinct de classe, repère les maisons dans lesquelles on arrête les coulaques, et puis on les met sur un radeau qui part le long du fleuve. Enfin, et après cette tragédie, la petite fille qu'ils ont adoptée, une orpheline, meurt. Et ils reviennent avec cette petite fille dans la fosse, et donc ils l'enterrent. Je lis juste le final, quand même, parce que, d'après ce qu'on m'a dit, on ne connaît pas la teneur. À midi, Chiklin se mit à creuser, pour Nastia, une tombe spéciale. Il la creusa pendant 15 heures d'affilée afin qu'elle soit profonde et que ne puisse y pénétrer ni le ver, ni la racine d'une plante, ni le chaud, ni le froid, et pour que le bruit venu de la surface de la terre ne trouble jamais l'enfant. Après une pause, Chiklin prit Nastia dans ses bras et alla précautionneusement la déposer dans sa pierre et la recouvrir. La chose se passa de nuit. Le kolkhoz entier dormait dans le baraquement. Seul l'ours, flairant du mouvement, s'était réveillé et Chiklin lui avait permis de renifler Nastia pour lui dire adieu. Donc, le mot de la fin est donné, une fois encore, à l'animal. Il y a là un problème, c'est que dans une des variantes plus tardives, Platonov a rajouté un final, au final, qui sonne tout à fait autrement, qui est celui de l'auteur. Notre URSS périra-t-elle pareillement à Nastia, ou bien deviendra-t-elle une grande personne, une nouvelle société historique? C'est ce sentiment angoissé qui a fourni le thème de cette œuvre, tandis que l'auteur l'écrivait. L'auteur a pu se tromper en figurant dans la mort d'une petite fille la destruction d'une génération socialiste, mais cette erreur n'a eu d'autre origine que son excès de sollicitude pour quelque chose d'aimé, dont la perte équivaudrait à la destruction non seulement de tout le passé, mais de l'avenir. Évidemment, le ton est très étonnant. C'est à la fois naïf, un peu gauche. On imagine qu'il fait suite aux reproches qu'on lui a adressés. On le comprend. Et en même temps, cette naïveté est à l'unisson du ton des personnages. L'idée d'un élan révolutionnaire qui renverrait à la régression, à la mort, ou du moins à la matrice, à la vie préutérine, est contenu également dans la métaphore du récit « La mère de Jouvence », qui est, bon, j'ai traduit comme ça, mais c'est pour être la mère juvénile. Et l'idée en est, c'est une image que j'ai trouvée très forte, justement, première fois que l'image de la régression m'est apparue il y a longtemps, parce que c'est toujours un héros, un personnage, un ingénieur qui part dans la steppe et qui, là, arrive dans un village invrai. C'est un récit plus tardif de 35, donc on est déjà plus dans le réalisme. Et il va construire le socialisme dans un kolkhoz complètement voué à la perte. Enfin. Et il se rend compte que la faim est là, qui rôde dans la steppe, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de nourriture. Et donc lui vient l'idée que pour que le socialisme existe, il faut creuser un puits, mais très très profond, qui a jusqu'au centre de la terre, où là il y a une poche d'eau, et qu'il appelle la mer de jouvence ou la mer juvénile. Et si on arrive jusque-là, eh bien, ça sera le socialisme. Voilà. Donc, ce sont des images de la matrice du creux comme aboutissement de la révolution. Les métaphores régressives sont l'avatar de l'enthousiasme révolutionnaire, du désir lancinant de trouver une issue à la misère et au malheur humain, à l'injustice et à la faim. Ainsi est posée de façon très consciente chez Platonov la question insupportable de l'échec d'un rêve dont il connaît et reconnaît et continue à connaître l'attrait inéluctable. D'un récit à l'autre, il y a là aussi moins l'épuisement que la réitération poignante du désir de révolution, un mouvement incessant de destruction et de restauration des passions rouges, du moins pour ce qui concerne Platonov, jusqu'à ce que la répression le réduise à néant. Il a exprimé avec force la fin d'un temps vectoriel, la nécessité advenue de regarder, comme nous, en face, l'image de la régression.
Merci à Annie. J'aurais bien aimé offrir une heure de plus. On aurait pu développer tout ça, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Moi, ça me fait très plaisir d'entendre parler de Platonov, de Zamiatine, parce que j'avais écrit un mémoire en DEA sur ces auteurs-là. Donc, ça ravive des souvenirs de lecture. Et j'espère que c'est une invitation à la lecture pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ce sont des livres magnifiques. Donc, ça mérite. Donc j'aurai en fait 10 000 questions à poser. J'en poserai qu'une parce que je vais laisser la parole à la salle. Juste une question. En fait, on parlait de l'Union soviétique. C'était la première ou la deuxième Union soviétique ?
Laquelle ? Non mais à quel moment ?
Bon, alors je laisse la parole à la salle. Effet. Applaudissements.
Qui veut lui répondre ?
Non, c'est pas grave. Admettons que je n'ai rien dit. Alors, est-ce qu'il y a des réactions ?
C'est peut-être anecdotique, Claire Calland. Moi, j'aime bien quand on revient à cette idée que c'est la fin qui permet de créer, de faire du nouveau, etc. Et là, en plus, la fin nous a fait revenir à des sources, des échos, etc. Mais pour Zamiatine, j'avoue que je m'inscris peut-être en écart, dans le sens que vous êtes spécialiste et moi absolument pas, et que je trouve que le titre « Nous autres » est un très bon titre.
Non, je dis ça parce que d'abord en russe, c'est « oui ». Et que « nous autres », il n'y a pas d'altérité dans « oui », il y a au contraire l'universalité. Ils sont tous, c'est le collectif majeur. Donc il n'y a pas d'opposition avec d'autres. Il n'y a que nous. Il n'y a plus de je, il n'y a que du nous. Il y a un jeu, si j'ose dire, entre le je et le nous. Et c'est le nous qui englobe.
J'entends bien les progressions françaises, le nous autres, moi, me paraît fonctionner. Alors que, évidemment, passer des diaboliques aux démons est quand même là, et une avancée qu'il fallait faire. Bon, c'était juste ça. Mais est-ce que vous pouvez juste dire un mot sur le fait que vous considérez nous autres. Comme un texte n'appartenant pas à la contre-utopie, j'ai pu comprendre ça.
Ben, d'une part, ça peut se lire comme un roman d'amour, je trouve que c'est... D'autre part, c'est quand même... Enfin, moi, je trouve... Ensuite, il y a tout de même, justement, une note optimiste à la fin, puisqu'on peut sortir du système de l'État unique. Il y a le mur vert, et au-delà du mur vert, il y a tous ces méfis et autres sauvages. Qu'en pense le collègue ?
Ah non, moi je...
Enfin bon,
oui.
De toute façon,
il y a une possibilité de sortie, mais enfin, on est quand même dans la fondation, je crois, quand même. Tous les autres l'ont imité, et c'est lui le fondateur. C'est peut-être pour ça qu'il est plus original et plus complexe à Zamiatine, oui, à analyser.
Oui, tu penses à Orwell.
Oui, voilà, oui.
Bien sûr, c'est le maître.
C'est Orwell. Avant, il y avait le roman américain.
Je sais. Oui, mais enfin, non, il y a vraiment une filiation directe de nous autres
à
1948.
C'est bien après.
Alors que Orwell a écrit, enfin, il a lu et il a écrit sur, sur Zamiatin. Et il a développé, bon, très fortement la question du langage, mais autrement, c'est pas sur le plan romanesque, c'est pas ça.
L'histoire d'amour est souvent contenue dans la contre-utopie.
Oui, parce, encore une fois, parce que c'est Zamiatin qui fonde, à mon avis, le modèle, enfin, à ma connaissance.
Oui, mais là, donc, c'est précisément ce qui fait éclater la contre-utopie dans ce sens où l'amour sauve, enfin, il fait périr, enfin, c'est la révolution et en même temps, c'est la naissance. Enfin, il y a quand même un embryon à naître, un bébé à naître, comme à la fin, un récit plus important. Je dois dire que je suis beaucoup plus fascinée par le récit le plus important.
Pardon.
Le récit du plus important.
D'accord.
Qui est quelque chose.
Alors, Frédéric a demandé la parole.
Ouais, juste. J'ai une sorte de chapitre de ce que je vais développer cet après-midi.
Voilà.
En gros, enfin, tu problématises exactement par rapport au travail de Lionel sur le concept de dénouement comme posture terminale initiale, en disant qu'il le problématise par rapport à la fin du XXe siècle, et tu dis, oui, mais en fait, tu nous parles d'une tradition qui montre que cette posture terminale, sans que ce soit du tout polémique par rapport à la réflexion de Lionel, simplement... Puisque lui-même dit dans le dénouement qu'il le réfléchit à la fin du XXe siècle par rapport essentiellement à des questions de philosophie.
Oui.
Alors qu'il dit en littérature, il y a un moment où il dit en littérature ça avait bien eu lieu déjà avant.
Oui, il dit juste ça.
Oui,
il
ne l'explique pas. C'est cette petite ouverture-là, je pense, dans laquelle on s'engouffre pleinement.
Oui. C'est vrai que dans son livre, il s'appuie sur les textes, et puis c'est sa génération, enfin, sur les textes philosophiques, et que moi, je dois dire, là, je trouve un peu dur que pendant les 20 années précédentes, ces mêmes philosophes aient été un peu sourds à la littérature. Voilà, on va dire comme ça.
Bon, à mon sens, de toute façon, on peut aussi réfléchir à des philosophes qui ont déjà été... Enfin, je veux dire, quand on a déjà parlé d'Adorno et Beckett...
Claude Lefort.
Je parlerai de Benjamin cet après-midi.
Et Lefort.
D'une façon qui ne sera pas trop redondante avec ce qui a déjà été dit à son propos. Donc j'ai pas grand-chose comme question à poser. Je trouve que tu voulais pas complètement revenir sur Platonov dans cette communication, puisque ça avait effectivement été l'objet de la communication à Moscou. Mais je rappellerai pour les gens qui ne connaissent pas qu'il y a encore un et qui me paraît absolument merveilleux, c'est Jan,
ouais, magnifique.
Dans la traduction.
Mais oui, mais je l'ai parlé dans l'article.
Dans la traduction de l'âge d'homme. Oui, bien sûr, je sais bien. Ah, c'est toi qui m'as dit, lis-le, donc j'ai pas l'impression de combler une lacune, c'est juste, je rappelle
oui,
ça.
Oui, c'est vrai. C'est
parce
vrai.
Que c'est vraiment, enfin, moi, c'est peut-être l'un des textes qui m'a le plus bouleversé ces dernières.
Parce qu'il y a une tortue, un chameau.
Alors.
Ce serait peut-être bon d'appeler le nom pour les non-lits.
Alors, Jan D. J. A. 2 N. L'âge d'homme.
Enfin, je pense, hein, c'est toi qui me l'as indiqué, pas dans la traduction de poche chez Trobio.
Non, si possible chez l'âge d'homme. Là voilà, aussi.
La traduction de 72.
C'est pas tellement le problème de la traduction, c'est le problème là encore de la version.
Oui, voilà.
Parce que, bon, bah, si vous voulez, je résume en deux mots. Jan, c'est l'histoire d'un type toujours qui part en mission, mais là, c'est encore un récit plus tardif, donc c'est encore plus ancré dans le réel. Donc, il a fini ses études et il part dans son pays natal, le Turkménistan, enfin le désert, l'endroit le plus désertique de tous les déserts, et Dieu sait, il y en a, effectivement, c'est une région assez terrible, la dépression de... enfin près de la Moudaria, entre le Turkménistan actuel et l'Ouzbékistan. Et là, il y a, pourquoi on l'envoie en mission, il y a un peuple qui s'appelle Djan, non turkmène, qui en fait, la traduction est fausse, Djan, ça veut dire l'être vivant, enfin, en turc, c'est-à-dire qu'on dit une femme est Djan, un homme est Djan, etc., c'est le suffixe qu'on donne à tous les êtres. Mais là, c'est le nom collectif d'un peuple qui est en train de mourir parce qu'il erre dans le désert. Et là, justement, c'est vrai que ça concerne directement ce thème parce que c'est une mort qui n'en finit pas. Ils sont morts, vivants, agonisants. Et ils sont partis et ils tournent et se déplacent. Il y a un faux communiste qui les mène, soi-disant, vers le bonheur, mais en fait, ils s'épuisent. On sent qu'ils vont mourir. Les trois quarts meurent en route. Et Tchadakaev, donc le narrateur, enfin le héros principal, va les conduire. Lui, c'est le vrai communiste, qui en même temps est un communiste intelligent, sensible, qui doute, qui hésite, et qui voit que ce peuple est attiré vers la mort, et au lieu de leur imposer le communisme, il les suit dans leur errance. Et ça, c'est très, très fort, je trouve. Et il voit, et il discute avec eux de cet attrait pour la mort, et donc du sens de la vie qu'ils ont perdu. Ils n'ont aucune notion de la révolution, l'avenir, ils n'y croient pas. C'est donc une exploration, au contraire, de l'éreintement, de la perte, de l'absence d'espoir, enfin de ce qu'est vraiment l'homme délaissé. Et mon hypothèse, enfin ma théorie personnelle, c'est que c'est en réponse et en écho lointain ou en déplacement à l'expérience du goulag que Platonov n'a pas eu, mais qu'il aurait voulu avoir, puisqu'en 1932, il y a eu la constitution d'une brigade d'écrivains qui était une brigade qui devait devenir vraiment le modèle prôné, qui a été prôné au premier congrès de l'Union des écrivains en 1934, dans la mesure où on voulait créer une nouvelle forme d'écriture, soviétique, socialiste, qui soit l'écriture collective. Et donc Gorky a organisé, a téléphoné, écrit à tous les écrivains, enfin connus, un peu importants, pour qu'ils viennent sur une croisière, sur un bateau, aller observer ce qui se passait au Belomorkanal, qui était un des premiers goulags, qui a été une entreprise épouvantable en Carélie, qui était destinée à relier par un canal à creuser donc la mer Blanche et la Baltique. Enfin, la Baltique était déjà assez proche de la mer Blanche à cause d'une succession de canaux et de lacs, le lac Onega, là où il y a Kijé actuellement. Mais il restait le morceau à creuser le plus épouvantable dans le granit, dans un froid épouvantable. Il y a des milliers de gens qui sont morts. Solzhenitsyn en parle dans l'archipel du Goulag, livre 2. Et l'idée était que ce canal deviendrait le modèle, comme ça, du succès pharaonique du communisme stalinien, puisqu'il a porté le nom de canal Staline. Et ce livre a existé, c'est-à-dire que les écrivains se sont embarqués pour une croisière de luxe, où on les a gavés de vodka, de caviar, etc., et surtout de documents qui étaient fournis par le KGB, c'est-à-dire il y avait des villages Potemkin, où il y avait des... Enfin, comme Theresienstadt, on a 10 fois mieux... Hein, des baraquements très confortables, des géraniums aux fenêtres, etc. Et on leur donnait des matériaux. C'était la biographie, tel et tel prisonnier qui racontait comment il était heureux. C'était des, évidemment pas de politique, c'était des droits communs, prostituées ou voleurs, etc., qui disaient comment le travail les avait régénérés, comment, etc. Et il y a eu ensuite regroupement de tous ces matériaux sous la direction de Vsevolod Ivanov, Gorky, et ils ont fait le livre du Belomorkanal, que j'ai cherché pendant des années en vain, et qui est maintenant visible à la bibliothèque Lénine, comme ça, ça brûle les doigts, et qu'on trouve, si vous le voulez, en traduction française, à la BN, tout simplement, mais sous des titres variés, parce que là, c'est les traducteurs. Alors, tantôt on l'appelle le canal Staline, tantôt le canal... parce qu'il y a eu plein d'édition, de traduction, ça a été vraiment le grand truc de propagande. Et les écrivains, on ne sait pas, certains devaient être très malheureux, d'autres étaient fiers. Vsevolod Ivanov, par exemple, il disait « C'est formidable, on a fait du montage en littérature, voilà maintenant que nous sommes les modèles de la littérature moderne avant les Américains, enfin c'était compétition, etc. » Et on en a beaucoup parlé au premier congrès des écrivains. Et, parenthèse, le livre a disparu complètement, a été censuré au bout d'1 an parce que les gens ont commencé à se poser les mauvaises questions sur ce canal. Bon. Et c'est pour ça qu'on ne le trouvait pas. Que curieusement, ce qui avait été le modèle de la littérature nouvelle a été ensuite à l'enfer. Et il a été réédité une seule fois par un éditeur anonyme en Carélie, il y a eu un petit exemplaire, qui disait dans une toute petite préface, il faut que les générations montantes connaissent les réalités. Or, Platonov a demandé à faire partie de cette brigade. Premièrement, c'était le moyen de sortir de la misère. On était payé, hein, on devenait écrivain officiel, nolens volens, enfin c'était obligé. Et on l'a refusé. Et donc, pour, en lot de consolation, il a eu droit à une brigade d'écrivains en Turkménistan, justement. Où il a. Et je pense qu'il a déplacé du coup la chose sur ce peuple djan. Voilà pourquoi je parle de cette confrontation avec la mort permanente. Les morts vivants, etc. Il me semble que c'est une métaphore déplacée du... enfin, de l'extermination. Quoi.
Ouais.
Et en même temps, par idée de construire le socialisme.
Oui, alors, est-ce qu'il y a encore d'autres réactions? Parce que, est-ce... enfin, on mange aujourd'hui ou pas?
C'est...
voilà, parce que, en fait, c'est, voilà, c'est dans 10 minutes, alors je ne sais pas s'il y a encore des réactions.
Plein,
enfin, oui, moi c'est pareil, hein, j'aurais.
Je pense que, de toute façon,
alors,
je...
s'il vous plaît, quand même une petite minute d'attention. Simplement, on est invité donc à boire le champagne par Antoine Volodine, donc ce soir, si j'ai bien compris.
En apéritif,
donc avant le buffet, donc voilà, pour tous ceux qui seront encore présents. Donc voilà pour l'invitation. Autre chose, Frédéric, non ? Bon, merci à tous. Hein. Merci.
C'est...